Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Yann Baggio, président de l'Ordre de Malte-France. Une belle carrière. Officier de marine de 1967 à 1987, spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. Jusqu'en 2002, il est chez Alcatel Space Industries, ingénieur commercial, et il rejoint l'Ordre de Malte-France fin 2002 comme responsable de l'audit des activités. Entre 2004 et 2010, Yann Baggio est directeur général de l'Ordre de Malte-France, 2010 secrétaire général du conseil d'administration. Il est chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre souverain de Malte et il est élu président de l'Ordre de Malte le 24 juin 2014. Yann Baggio, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Très beau parcours.
Oui, c'est un parcours assez varié.
Oui. Et alors, comment est venu votre intérêt pour l'Ordre de Malte?
Eh bien, écoutez, à vrai dire, c'est à la fois, je dirais, un intérêt qui venait un peu de ma famille, qui était aussi engagée dans l'Ordre de Malte, et en même temps, un engagement personnel. Je pense que comme dans toute activité, je dirais, caritative et a fortiori religieuse, il y a à la base, je dirais, un engagement personnel qui est lié, je dirais, à ma vie personnelle, je dirais, à mon engagement comme scout pendant mes premières années.
Puis votre ensuite, père aussi était...
Mon père était aussi chevalier de Malte, oui, absolument. Mais je pense que c'est un engagement pour chacun, qui est toujours un engagement personnel.
Bien sûr, mais vous aviez peut-être une admiration.
Mais
quand
j'avais
même
une certaine admiration pour ce qu'il faisait, et surtout pour ce que faisait l'Ordre lui-même.
Donc, et
on était
un
peu au courant de ce que faisait l'Ordre à travers le monde et en France. Et donc, ça m'a attiré. Après, quand j'ai eu un peu plus de temps, et que ma vie familiale me l'a permis, de me diriger vers cette activité.
Oui, famille, vous avez des fils
J'ai 6 enfants, donc 4 garçons et 2 filles, et dont plusieurs d'ailleurs sont officiers.
Ah voilà.
Voilà. Oui.
Donc un intérêt aussi de vos enfants pour l'Ordre de Malte.
Oui, enfin disons qu'ils ont suivi un peu ce que je faisais pour certains, et certains même sont engagés comme bénévoles, je dirais, dans les délégations départementales, voilà, là où ils résident.
Très bien. Donc vous êtes vraiment un membre important, influent de l'Ordre de Malte.
Oui, enfin au niveau français, oui, effectivement, puisque en France, il y a d'une part l'association des membres de l'Ordre, qui est dirigée par Thierry de Beaumont-Bénac, et qui regroupe l'ensemble des chevaliers de Malte français.
Oui.
620 personnes à peu près actuellement. Et puis à côté, il y a les activités que nous menons sur le terrain, et qui, elles, sont regroupées au sein d'une association particulière qu'on appelle l'Ordre de Malte France, et qui, effectivement, mène des actions en France et dans des pays généralement de langue française.
Voilà. Alors, nous y reviendrons un petit peu plus tard, parce que j'aimerais tout d'abord qu'on essaie de voir comment est né l'Ordre de Malte. Et je crois qu'il faut vraiment retourner à 1048 pour voir un peu cette origine, est-ce ça ?
Oui, exactement. Alors, l'Ordre de Malte, c'est à la fois un ordre religieux et un ordre engagé de par son charisme, je dirais, au service des pauvres et des malades, et qui a pris naissance en 1048, comme vous le disiez, à Jérusalem, un peu avant la première croisade. Hein. La première croisade n'est arrivée qu'en 1099. Et donc là, il y a un religieux qu'on appelle le bienheureux Gérard, probablement bénédictin, qui s'est détaché de son couvent pour monter un hôpital au profit donc des pèlerins qui étaient souvent en mauvais état à leur arrivée sur place. Et donc c'est la naissance effectivement de l'organisation de l'ordre. Alors l'ordre s'est organisé, a survécu à la première croisade, si je puis dire, la prise de Jérusalem, 1099, et puis s'est développé avec l'arrivée de nombreux chevaliers qui, effectivement, faisaient partie de cette première croisade et qui ont voulu rester sur place à Jérusalem et s'engager, je dirais, au service des autres. Et donc, dans l'ordre, qui lui-même a pris donc une forme d'organisation religieuse en 1113 par une bulle du pape qui a organisé l'ordre en ordre religieux. Donc l'ordre est devenu un ordre religieux composé donc de membres qu'on appelle des religieux laïcs, c'est en droit canon, c'est-à-dire des religieux qui prononcent les trois vœux, mais qui ne sont pas prêtres. Voilà. Et l'ordre donc a développé ses activités hospitalières dans les pays latins autour de Jérusalem, jusqu'à la chute, je dirais, de la chrétienté à cette époque. Donc, lorsque Saint Jean d'Acre a été pris par les musulmans en 1291. À cette date-là, l'ordre, effectivement, était déjà très important, avait acquis cette compétence supplémentaire.
Parce qu'en 1291, il n'était pas seulement... Il était aussi à Chypre.
Alors, l'ordre était dans les États latins de Jérusalem, dans toute la région de Palestine, mais pas encore à Chypre. Et puis, au moment où Saint Jean d'Acre est tombé, donc tous les chrétiens, je dirais, de Palestine, donc ont dû partir. Mmh. Et les quelques ordres de chevalerie qui avaient été créés à cette époque-là, je pense aux Templiers, dont on parle souvent beaucoup, ont défendu Saint Jean d'Acre avec les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, qui sont le nom d'origine des chevaliers de Malte. Ces chevaliers, les autres ordres, sont rentrés en Europe. Mais les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ont voulu rester dans la région pour manifester toujours leur présence auprès des pèlerins qui venaient encore. Et puis, de il faut bien reconnaître, cette confrontation avec les Ottomans qui occupaient la région. Donc l'ordre est parti à Chypre pendant quelques années, puis s'est installé à Rhodes. Et donc ils sont installés à Rhodes en 1307 et ont pris possession de toute l'île de Rhodes, où ils ont installé, la première chose, c'est un hôpital, comme c'était leur habitude et leur vocation, et ont régné sur l'île de Rhodes, et qui est devenue un peu leur principal territoire souverain, dont ils ont tiré, je dirais, leur place ensuite internationale au plan politique comme ordre souverain. Ceci n'a eu qu'un temps, puisque les Ottomans ont continué la pression sur l'île de Rhodes pour en chasser donc les chevaliers. Et Rhodes est tombé un peu plus tard, après un siège énorme qui a fait près de 200 000 hommes. Les chevaliers donc ont été dispersés en Méditerranée. Heureusement, en 1530, Charles Quint, qui évidemment était dans cette partie je dirais, occidentale de la Méditerranée, avec l'Italie, l'Espagne et une partie, bien sûr, des États du nord de l'Europe, a voulu bloquer un peu l'accès de cette Méditerranée à la poussée ottomane et a bien compris l'intérêt d'avoir effectivement une force militaire organisée dans ce domaine et a donné l'île de Man aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui ont pris alors le nom d'Ordre de Malte.
Voilà. Alors, ils ont aussi adopté un drapeau.
Alors, ils ont adopté, bien sûr, un drapeau. Ils avaient leur insigne, je dirais, personnel, qui est toujours celui qu'on voit un peu partout, qui est la croix blanche à huit pointes, mais qui caractérise la croix blanche à huit pointes sur fond rouge, qui caractérise les œuvres de l'Ordre de Malte, à vrai dire.
Je pensais que c'était les huit béatitudes.
Alors, le symbole que l'on place derrière, effectivement, cette croix à huit pointes, ce sont les huit béatitudes. Mais, pour être précis du point de vue historique, ça n'est qu'une transposition. C'est-à-dire que la croix à huit pointes a été prise dès le départ à Jérusalem, et on ne connaît pas très bien d'où vient l'origine de cette croix à huit pointes. Elle n'a pas été prise pour les huit béatitudes. Probablement, les historiens, les archéologues ont retrouvé des croix à huit pointes dans l'archéologie de la Palestine, donc de bien avant la création de l'ordre.
Ah bon ?
Et ce symbole a été récupéré, si je puis dire, par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et comme il y avait effectivement une croix à huit pointes, on y a associé les huit béatitudes. Mais
ah oui,
ça s'est fait dans ce sens-là. Non, c'était pas à l'origine. Voilà, enfin, c'est quand même une belle histoire.
Oui. Alors la croix blanche.
Alors le drapeau de l'ordre de Malte, qui est le drapeau de l'État que représente l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'on appelle donc maintenant ordre de Malte, c'est le drapeau, je dirais, qui est celui de la Savoie, que tout le monde connaît, le drapeau de la croix blanche sur fond rouge, qui effectivement manifeste la souveraineté de l'ordre de Malte. Donc les deux drapeaux existent. Le drapeau de l'État souverain, qui est cette croix blanche classique sur fond rouge, et puis la croix à huit pointes qui caractérise plus, je dirais, l'activité caritative de l'ordre.
Et blanche, ce n'est pas parce que pureté ?
Si, le blanc, effectivement, c'est le symbole un peu de la pureté, et donc associé à ces béatitudes,
oui,
bien
c'est
sûr.
Ça. Donc, je disais également... des huit régions avec des langues différentes.
Alors l'ordre a la particularité par rapport à beaucoup d'autres ordres religieux et même de ces ordres religieux militaires d'avoir gardé jusqu'à maintenant et, une division par pays.
Oui.
Et à l'origine on appelait ça des langues et il y avait huit langues dont la France en avait trois puisque la France était divisée en plusieurs langues.
Oui.
L'Auvergne, la France qui représentait qu'en fait la France du Nord. Et puis, dernière m'échappe, mais donc dans le sud, la Provence, pardon, voilà, la Provence, donc les autres c'était la Castille, hein, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Voilà, donc c'est resté comme ça, l'ordre aujourd'hui reste quelque chose qui est décomposé en associations nationales. Alors il y en a 48 aujourd'hui, il y en a plus 8. Mais il y a beaucoup d'autonomie à l'intérieur de chacune de ces associations nationales.
Et la France est assez autonome aussi.
Et la France, donc, alors il n'y a plus trois langues en France maintenant, il n'y en a plus qu'une. Mais la France a aussi, bien sûr, du point de vue de son activité caritative, beaucoup d'autonomie. Plan religieux, non. Plan religieux, c'est un ordre religieux, donc il y a une centralisation, ce qui est normal.
Mais sur le plan caritatif.
Mais sur le plan caritatif, oui.
Vous êtes assez libre.
On est assez libre, effectivement. Il y a des directives, je dirais, générales, bien sûr, émises par Rome, puisque le siège de l'ordre est à Rome, mais au plan national, chacun, je dirais, après...
Alors, au niveau international, combien y a-t-il de chevaliers dans le monde ?
Alors, aujourd'hui, le nombre de chevaliers a beaucoup augmenté. Les chevaliers sont divisés, je dirais, en trois classes. La classe des religieux, qui prononcent donc les trois vœux classiques de tous les religieux. Il y en a à peu près 60 dans le monde, donc 4 en France. Et après, vous avez les chevaliers laïcs, hein, je dirais, qui ne prononcent pas de vœux religieux, qui sont à peu près 13 000 dans le monde, dont 600, un peu plus de 600 en France. Et puis une classe intermédiaire qui a été créée dans les années 50, qui est la possibilité pour des religieux laïcs de prononcer une promesse d'obéissance et d'engagement du point de vue vie religieuse à l'intérieur de l'ordre, qui est une classe intermédiaire qu'on appelle la deuxième classe, qui sont les chevaliers en obédience. Voilà.
Donc vous êtes chevalier...
Alors moi, je suis chevalier en obédience.
En obédience.
Voilà.
Et vous avez quelle autorité au-dessus de vous ?
Alors l'autorité, c'est le gouvernement de l'ordre à Rome. Je dépends d'abord
du
président, bien sûr, du président de l'association française de l'ordre de Malte. Mais en tant que représentant de l'activité caritative française, je suis hospitalier, l'hospitalier français. Et donc il y a à Rome, dans le gouvernement de l'ordre à Rome, un grand hospitalier qui fait la coordination des activités hospitalières. Donc je dépends de lui à ce titre.
Très bien. Alors vous êtes un petit peu diplomate aussi. Vous avez un passeport diplomatique.
Diplomate à proprement parler, non, mais il faut faire effectivement un peu de preuve de diplomatie parce que notre activité française se développe en France, comme toute association de l'ordre dans son propre pays, elle mène ses activités dans son pays, mais dans certains cas, on peut développer des activités dans d'autres pays qui n'ont pas d'association et qui sont un peu des pays pauvres, donc qui ont besoin d'être aidés. Et c'est un peu le cas de la France qui, effectivement, développe une activité caritative dans 27 pays qui sont pour la plupart les pays des anciennes colonies françaises et qui sont donc francophones et avec lesquels on a des contacts très faciles, je dirais. Voilà. Et ça m'arrive de voyager. Et pour ces activités, effectivement, je dois faire un peu parfois preuve de diplomatie.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
Je suis toujours avec Yann Baggio et nous évoquons les chevaliers de l'Ordre de Malte. Nous avons d'abord parlé de l'histoire des chevaliers et puis maintenant j'aimerais bien que vous nous disiez que comme vous êtes un ordre souverain, vous devez avoir aussi des activités. Lesquelles ?
Alors, les activités sont organisées d'abord à partir d'un gouvernement, puisque c'est un ordre souverain. Mmh. Le gouvernement de l'ordre est à Rome, puisque l'ordre de Malte a abandonné l'île de Malte. Lorsque Napoléon a pris l'île de Malte en 1789, en partant en Égypte. Et l'ordre s'est à ce moment-là replié, si je puis dire, dans un palais que l'ordre possédait à Rome, qui était son ambassade auprès du Vatican. Et l'ordre est installé dans ce palais, où est installé donc le gouvernement.
Et vous allez souvent, vous êtes amené à aller assez souvent.
Parfois, effectivement, à aller à Rome ou à rencontrer dans des réunions internationales, d'abord les autres hospitaliers du monde, et puis les représentants du gouvernement de l'ordre. Alors l'ordre est dirigé par un grand maître. Hein. Ce grand maître est un religieux qui est élu à vie. Pour l'instant, nous sommes dans une période intermédiaire parce que nous sommes actuellement en cours de refonte de notre code institutionnel. Et donc,
vous n'aurez plus un président à vie ?
Alors ça, je ne peux pas vous répondre. C'est une réflexion qui est en cours, qui était faite d'ailleurs à la demande du pape. Et je ne peux pas préjuger de la suite, étant donné qu'actuellement, les ordres religieux sont, c'est vrai, pour la plupart, dirigés par des supérieurs dont la durée est limitée, mais pas tous. Donc, il existe de nombreuses exceptions où les pères abbés, souvent c'est des couvents, sont élus aussi à vie. C'est le cas des bénédictins. Donc, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas quel sera l'avenir. On le saura.
Enfin, disons que c'est un tournant.
C'est une modernisation plus qu'un tournant. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit un tournant. C'est une modernisation des règles de fonctionnement de l'ordre qui, effectivement, peut-être accentuera son organisation au plan religieux, ce qui me paraît tout à fait sain, bien sûr.
Et vous avez aussi votre propre constitution ?
Alors, on a une constitution, oui, tout à fait. Alors, cette constitution, elle est votée par nous, mais elle doit être approuvée.
Alors, quand vous dites
nous, c'est-à-dire les membres de l'ordre, nous ne votons pas tous, bien sûr, pour la constitution, mais nous avons des représentants qui sont, en général, les présidents des différentes associations, dont les plus importants, ainsi que les prophètes, c'est-à-dire les religieux, votent pour, je dirais, toutes les grandes décisions et, bien sûr, a fortiori, les modifications concernant la charte.
Alors, vous pouvez nous citer quelques grandes décisions qui ont été prises récemment ?
Il n'y a pas eu de très grandes décisions prises récemment. L'ordre vit vraiment dans une continuité historique qui est assez exceptionnelle, La constitution de l'ordre a subi une modification dans les années 50, mais assez mineure. Et dans le fond, le code d'aujourd'hui qui régit l'ordre est en grande partie tiré de son code d'origine, donc ça remonte au XIe siècle, au XIIe siècle, et la dernière grande modification date d'un peu d'avant la Révolution française. Donc vous voyez, il y a une grande continuité.
On parle aussi des chevaliers et les dames.
Oui.
Alors, il y a donc des dames.
Oui, alors c'est certainement une révolution, une évolution importante.
Oui.
Qui est intervenu probablement à la fin du 19e siècle, où on a permis effectivement aux femmes de pouvoir rentrer dans l'ordre, et qui représente aujourd'hui une minorité importante, je dirais,
et
aussi active.
Pourcentage ?
Alors, ça dépend de chaque pays. Chaque pays est libre dans ce domaine.
Et en France ?
En France, il y a une trentaine de dames de l'ordre sur 630. Oui, vous voyez, c'est une minorité faible, ça fait 5%. Il y a des pays où c'est plus important. Je pense en particulier aux États-Unis, qui n'a pas la même histoire, je dirais, et où effectivement les dames de l'ordre sont beaucoup plus nombreuses. Mais elles remplissent après les mêmes fonctions. Partout. Il y a des dames de l'ordre dans notre conseil d'administration en France.
Oui. Et il y a un uniforme.
Alors, il y a un uniforme de l'ordre qui est composé de deux uniformes, si vous voulez.
Alors, dites-nous.
Il y a un uniforme dit militaire, qui en rappel de l'histoire de l'ordre, qui est un uniforme rouge, assez, je dirais, de style assez, assez garde républicaine ou assez britannique, je dirais, de sa sur sa forme, qui est mis pour les grandes circonstances, je dirais, notamment la fête de l'Ordre de Malte que nous fêtons chaque année le 24 juin.
Oui, alors en quoi consiste cette fête? Parce qu'on a vu quelques images.
Oui, alors chaque année, nous fêtons notre saint patron. C'est notre saint patron, c'est saint Jean-Baptiste.
Oui.
Alors pourquoi saint Jean-Baptiste? Parce que saint Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie. Et Zacharie, on dit que là où vit la maison de Zacharie, qui était située à Jérusalem, c'est sur son emplacement qu'a été construit le premier hôpital de l'Ordre de Malte. Voilà. Mmh. Puis je pense que les premiers religieux ont voulu aussi avoir un saint patron assez, je dirais, d'une grande notoriété, et que saint Jean-Baptiste, c'était le cas. Enfin, voilà pour saint Jean-Baptiste. Donc sa fête est le 24 juin, et donc autour du 24 juin, puisqu'il faut tomber sur un week-end, nous fêtons notre saint patron, et par une grande messe solennelle, où les...
Qui a lieu à Rome.
Qui a lieu, alors, dans tous les pays.
Ah, dans tous
les
pays.
Qui a lieu à Rome, et qui a lieu dans tous les pays où il y a une association.
Et en France aussi.
En France aussi, bien sûr.
Et ça a lieu à Paris.
Alors ça a lieu, non, ça a lieu depuis une trentaine d'années dans la chapelle royale du château de Versailles. Le château de Versailles, les autorités du ministère de la Culture et le président du château de Versailles nous prêtent, je dirais, la chapelle royale pour cette grande messe qui réunit beaucoup de monde. Parce qu'il y a non seulement les chevaliers, bien sûr, mais il y a aussi de nombreux invités, dont le représentant du président de la République, qui est toujours le grand chancelier de la Légion d'honneur, qui est là. Et alors, je disais, il y a deux uniformes. Les gens peuvent venir avec leur uniforme rouge, ce qui est une minorité, peut-être une trentaine. Et puis, les autres viennent avec un uniforme qui est plutôt un habit religieux. Parce que tous les membres de l'ordre portent un habit religieux qui est une coule, assez classique pour les moines, qui est une coule noire sur laquelle on porte effectivement la croix de Malte à 8 pointes blanches sur la tenue.
Et vous-même, vous avez les deux uniformes?
Alors moi-même, je ne porte pas l'uniforme rouge, j'en ai pas besoin, et je me limite à ma coule religieuse. Ça me suffit.
Et les dames
Et les dames, elles sont habillées avec une tenue qui est une cape noire, et sont habillées en noir avec la croix de Malte à 8 pointes sur la cape. C'est la même tenue d'ailleurs qu'elles portent à Lourdes pour s'occuper des malades.
Ah oui.
Puisque chaque année, il y a un pèlerinage international à Lourdes qui regroupe 8000 personnes, dont 1500 ou 2000 chevaliers.
Ah oui, quand même.
Et beaucoup de malades.
Et beaucoup de malades. Et
très nombreux malades.
Alors justement, maintenant, j'aimerais bien que nous en venions à la France, à ce qui se passe en France, et justement à toutes vos missions. Et ça, c'est
alors,
très
la France,
important.
Oui, la France a développé de très nombreuses missions qui sont à caractère hospitalier, en faveur des personnes les plus souvent fragiles ou malades. Il y a pas loin de 2000 salariés, dont... plus d'un millier sont dans des maisons d'accueil spécialisées, dans le secteur médico-social ou des maisons de retraite médicalisées, les EHPAD, et puis des activités de solidarité au profit des personnes seules dans la rue ou des immigrés, des réfugiés en particulier, qui sont souvent accompagnés par des bénévoles, par des membres de l'ordre certes, mais surtout aussi par des bénévoles. Mmh. Et puis des nombreuses activités à l'étranger. Nous avons près de 800 salariés dans des hôpitaux, principalement en Afrique, où nous gérons 7 hôpitaux. Oui, 7 hôpitaux.
Hôpitaux qui sont spécialisés?
Non, des hôpitaux généraux, qui ont chacun une centaine de lits à peu près, et qui ont toutes les disciplines classiques d'un hôpital, dans des régions en général très pauvres, et des maternités, puisque nous avons près de 10 000 naissances par an dans nos différentes maternités, dont la plus emblématique est celle de Bethléem, puisqu'il y a une maternité à Bethléem dirigée par l'Ordre de Malte et dirigée par la France, où il y a près de 3 000 naissances par an.
Ah oui.
Voilà. Et qui sont d'ailleurs pour la plupart quelques chrétiens, bien sûr, parce qu'il y a encore des chrétiens à Bethléem, moins, beaucoup moins qu'autrefois, mais... voilà, donc c'est très emblématique pour nous de savoir que nous avons une maternité à Bethléem.
Bien sûr. Alors, je sais aussi que vous aidez les migrants, les réfugiés.
Alors oui, nous aidons nous sommes très, effectivement, nous développons cette activité parce que c'est un grand problème, je dirais, en France. D'une part, en accueillant à la demande du gouvernement de l'État des familles de personnes réfugiées en France à Paris, où il y a 450 familles qui sont prises en charge, représentant près de 2 000-2 500 personnes avec les femmes, les enfants. Donc on s'occupe un peu de leur scolarité, de l'accueil, de l'accès aux soins. On s'occupe de réfugiés, ce qui est un peu différent aussi, dans la région de Tours, la région de Blois.
Ah oui, vous avez des régions précisément.
Oui, parce qu'on s'est développé là, parce que là, il y avait un besoin que d'ailleurs l'État avait ciblé, parce qu'il y avait déjà des communautés de réfugiés, principalement des communautés de réfugiés irakiens qui étaient installées là. Donc c'était plus facile pour leur intégration.
Bien sûr.
Voilà, donc c'est, et ceci se développe. Hein. Alors nous le faisons souvent en liaison avec les diocèses et avec les associations locales, catholiques pour la plupart d'entre elles, ou protestantes, c'est le cas à Tours.
Alors je sais aussi que beaucoup de secourisme.
Oui, alors c'est une activité qui a été développée depuis plus de 30 ans. On a 4 centres de formation de secourisme et d'ambulanciers. Et on forme à peu près aujourd'hui 1 500 ambulanciers par an.
Ah,
on est la deuxième organisation d'ambulanciers en France.
Ah, on n'imagine pas, hein. Ça
oui,
c'est très intéressant.
Et c'est une excellente, disons, formation pour une réinsertion, souvent de gens en difficulté du point de vue travail.
Bien sûr.
Et à côté de ça, bien sûr, du secourisme, avec 25, à peu près 25 unités départementales de secourisme et 1 000 000 de secouristes.
Alors, j'en viens à cette question, mais avez-vous des subsides? Comment ça se passe? Parce que vous faites beaucoup de choses, mais ce n'est pas le tout.
Oui, alors, bien sûr, le budget est un budget qui avoisine les 80 millions d'euros. Sur ces 80 millions d'euros, 60 sont donnés par l'administration, je dirais, dans le secteur médico-social. Comme tout le secteur médico-social en France, ça marche par convention, par département, avec ce qu'on appelle l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et puis les 20 millions qui restent, c'est des dons et des legs qui sont indispensables puisque nous utilisons à peu près la moitié de cet argent pour faire fonctionner la solidarité dans les départements et l'autre moitié est utilisée pour faire fonctionner tout le secteur hospitalier à l'étranger.
Alors peut-être vous pouvez inviter nos
Alors c'est
nos auditeurs.
Pour nous vraiment essentiel et nous sommes extrêmement reconnaissants, je dirais, aux donateurs et à ceux qui nous lèguent puisque... La meilleure façon, c'est de donner à l'Ordre de Malte France, c'est le nom, 42 rue des Volontaires, Paris 15e, 75015.
Eh bien, Yann Baggio, un grand merci. Chers auditeurs, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Yann Baggio.